Bonjour.
Bonjour madame.
Bonjour monsieur. Merci de me recevoir. Alors il y a tout de suite des photos qui attirent mon attention.
Voilà, c'est mon père. Mon père était officier de la cavalerie polonaise. Il avait fait ses études supérieures en Allemagne dans les années 20. Et je me souviens qu'il me racontait toujours des merveilles sur l'Allemagne et sur la mentalité des Allemands. Nous sommes allés voir mon père dans le camp de Pithiviers. Ma mère demandait à mon père de s'enfuir, mais mon père n'aimait pas être dans l'illégalité. Et comme il était ingénieur en mécanique, il disait « Mais de toute façon, si on m'envoie en Allemagne, ils auront besoin de moi. » Et il s'ennuyait dans ce camp de Pithiviers. Et il désirait être déporté.
Pour travailler.
Oui, pour travailler. Quant à ma mère, elle admirait le maréchal Pétain. C'était un maréchal de France qui nous protégeait, selon elle, ce qui était d'une logique absolue. Et elle était étonnée de la bêtise d'Hitler de faire confiance au maréchal Pétain.
Elle croyait qu'il allait le doubler, quoi, qu'il n'allait pas lui obéir.
Elle pensait qu'il faisait semblant de collaborer.
À quel moment vous avez su que c'était plus la peine de chercher, en fait ?
Je vais vous le dire, je les ai attendus pendant 30 ans. Pendant 30 ans, j'ai attendu. Le jour où j'ai compris que c'était peut-être plus la peine d'attendre, c'est quand mon père est né en 1901, il est donc décédé en 1943, parce que Serge Klarsfeld a su me trouver l'historique de mon père à Auschwitz. C'est étonnant. Et c'est terrible que mon père ait vécu ce qu'il a vécu à Auschwitz. Et donc, en 1943, mon père avait 42 ans. Et quand moi j'ai eu 42 ans, c'est là que j'ai cessé d'attendre. Ouais. Et cependant, encore maintenant, mes parents me manquent. C'est pour ça que j'aime pas beaucoup témoigner. C'est toujours des souvenirs comme ça qui sont enfouis. Et voilà.
C'était une famille plutôt aisée, c'était une enfance plutôt joyeuse.
Oui, l'ambiance, c'était le bonheur de vivre en France. Mes parents n'avaient pas encore obtenu, ils avaient fait la demande d'avoir la nationalité française. Il n'y avait que moi qui avais la nationalité française. Et quand les amis qui venaient de Pologne et tout, ils étaient fiers de présenter leur fils qui, lui, était français. Justement, pour vous montrer à quel point mon père était naïf, ça devait être en 1938 ou en 1939. On avait un beau poste de radio qui permettait de capter toutes sortes de pays. Et il a su qu'à telle et telle heure, à la radio Berlin, il y aurait Adolf Hitler qui viendrait faire un discours. Et donc, on se retrouve dans le salon et on écoute Adolf Hitler. Moi, il me faisait peur. Mon père, ça le faisait rire. Et ma mère avait aussi un peu peur. Et mon père nous expliquait, ils ne vont pas le supporter longtemps. C'est un clown. J'en ai voulu à mes parents de n'avoir rien compris.
À quel moment votre vie bascule, en fait ?
Ma vie bascule réellement le jour de rafle du Veldiv, quand ma mère disparaît et que moi, je me retrouve tout seul dans cette chambre. Moi, je dormais profondément et quand je me suis levé, j'en avais entendu plus ou moins du bruit, des cris ou des choses comme ça. Bon, j'avais 9 ans, bon, je me lève. Je cherche ma mère n'est pas dans l'appartement.
Mais attendez, ils sont venus arrêter votre mère le jour de la rafle du Veldiv.
Oui.
Et ils ne sont pas venus jusqu'à votre chambre, ils n'ont pas vu que vous étiez là.
Non, et ils ne sont pas rentrés dans la chambre.
Mais c'est incroyable.
Ah ben oui, donc je m'habille plus ou moins, et à ce moment-là, le concierge me dit, dis donc mon petit Jojo, il y a la police là qui te recherche, il faut que tu te foutes le camp, va te planquer, qui me dit. Et là, j'ai pris peur, je me suis promené un petit peu, je place de la Bastille, je vois pas ma mère, Je suis arrivé jusqu'à la gare de Lyon. Puis là, je voulais prendre un train, mais comment prendre le train? Il y avait une dame là qui poinçonnait, mais comment passer? Je m'approche de cette dame et je dis à la dame, mais ma maman, elle est là-bas au bout du quai. Mais elle me dit, mais passe, va la chercher. Et j'ai vu un train qui partait et je suis monté dessus. Ça, c'est étonnant comment à 9 ans, on peut avoir des réactions qui paraissent intelligentes, mais ce n'était pas une question d'intelligence, je ne réfléchissais pas à ce que je faisais.
Donc vous montez dans un train et vous descendez dans une gare
comme ça au hasard. Et puis là, qu'est-ce que je peux faire? Je ne connaissais personne, je ne savais même pas où je me trouvais. Et il y avait un bois le long de la ligne de chemin de fer. Bon, il faisait bon, hein, on était au mois de juillet. Donc je me suis couché dans le bois. Et puis au petit matin, chose que je n'avais encore jamais connue chez mes parents, j'avais faim. Et ce bois était en surplomb d'un jardin potager. Il y avait des carottes là. J'ai arraché quelques carottes, j'ai remonté, j'ai mangé. Et là, deux types m'ont attrapé. Ils ont voulu me frapper, mais ils avaient un chef qui dit à ses copains, je ne savais pas l'espagnol, mais je comprenais ce qu'il disait. Il a des vêtements de riche, celui-là. Et il m'explique, lui, il savait assez bien le français. Il m'explique, on veut pas te frapper, mais dis-nous qui tu es. Pourquoi tu viens nous voler des carottes? T'es pas pauvre. Alors, je lui ai un petit peu expliqué, je lui ai dit que j'étais polonais, etc. Ah, oh, il m'a dit, t'es polonais, ça c'est un grand peuple.
Et alors, donc, en quelques heures, mais vous passez d'un univers à un autre, enfin vous passez du tout au tout, quoi.
Oui.
Et les Espagnols, ils faisaient quoi?
Et les Espagnols, ils faisaient du terrorisme.
C'est-à-dire, ils faisaient quoi?
C'est-à-dire qu'ils ont descendu pas mal de collabos. Ils avaient aussi une imprimerie clandestine. Et en quoi je pouvais leur être utile? Eh bien, c'est que moi, ils me mettaient dans mon petit cartable les faux papiers, les cartes d'alimentation, et je descendais à Paris aux adresses qui m'étaient données, et j'allais ensuite dans un asile d'aliénés à Charenton, où j'apportais les faux papiers. Ce que je ne savais pas, c'est qu'une bonne partie des aliénés là en question, c'était un réseau de résistance. Et que le plus drôle de tout ça, c'est qu'au rez-de-chaussée, c'était la commandante Tour.
Donc en gros, vous avez une dizaine d'années et vous devenez résistant.
Oui, mais je ne peux pas dire que j'étais résistant parce que...
Enfin, vous faites des actions de résistance.
Oui, mais pour moi, c'était l'aventure. Et un jour, j'ai été arrêté. À l'époque où j'étais chez les Espagnols, j'ai été arrêté, je me suis retrouvé à la commandante Tour. Le commandant là, de la commandante Tour là, qui m'interrogeait, moi j'avais le menton là, juste sur la table, qui me demande si je suis juif.
Et donc quand il vous demande si vous êtes juif, vous dites quoi?
Je lui dis j'en sais rien. Et je ne savais même pas très bien ce que ça voulait dire.
Ouais.
Hein, il m'aurait demandé si j'étais breton. Bon, j'aurais peut-être dit non, mais là, bon, j'étais honnête, je ne savais pas. Et bien, l'Allemand m'a mis dans une geôle. Moi, quand je me suis retrouvé dans la geôle, j'étais fier, parce que j'avais lu, dans les semaines qui avaient précédé, le Comte de Monte Cristo. Et je me prenais pour le Comte de Monte Cristo, et le tout était de réussir à s'évader. Non, mais c'est vrai, mais il y avait une porte, j'ai ouvert la porte. Ça s'ouvrait, il y avait un couloir, j'ai suivi le couloir. Sous une autre porte, il y avait un rayon de soleil. J'ai ouvert la porte, j'étais dans la rue. Et là, il y avait un gendarme qui m'a vu, qui s'est retourné pour faire semblant de ne pas m'avoir vu. Il était tout de même armé et j'ai couru comme un lapin.
Avec tout ce que vous aviez traversé et vécu, qu'est-ce qui vous a fait tenir ensuite?
Alors pour moi, c'était relativement simple. J'ai toujours vécu sur le présent et avec des projets. Et j'avais un projet qui était très simple et qui me rendait la vie très facile. J'avais décidé qu'à 25 ans, je me suiciderais. C'est parce que de mon expérience en France, c'est que quand on devient adulte, on devient des salauds. Et ça, je ne voulais pas. À part mes parents, tout était, me semblait abominable. Je me suis dit, il y a plus ou moins salaud, mais enfin, de toute façon, je deviendrai comme eux.
Le jour de vos 25 ans, il se passe
quoi? Ah non, alors il s'est passé une chose qui, dans le langage actuel, n'a pas de sens, à mon avis. La question, c'est que, quand j'étais au kibbutz, j'étais à la tête j'étais la responsable de la bergerie. Et voilà que deux étudiantes, une américaine et une autre française, m'avaient dit qu'en Israël et au kibbutz, comme en France ou n'importe où, l'égalité entre les hommes et les femmes, ça n'existe pas. Et puis je me suis retrouvé sous l'emprise de la française. J'aime pas ce terme emprise, je l'utilise comme ça pour rire, c'était le coup de foudre, quoi.
Mais donc du coup, vous n'êtes pas suicidé parce que vous étiez amoureux ?
Oui, c'est ça. L'amour, ça fait beaucoup. C'est incroyable.
Vous avez reconstruit un environnement affectif.
C'est-à-dire que si je m'étais suicidé, il y a certains amis que j'ai sauvés du suicide.
Ah oui.
Et puis aujourd'hui, je me dis à 88 ans, se suicider, c'est un peu trop tard.
Ça n'a plus vraiment de sens.
Non.
C'était passionnant, très atypique comme parcours.
Oui.
Je suis contente parce que j'ai jamais entendu une histoire comme la vôtre.
Non.
Il n'y en a pas beaucoup.
Non, chacun a son histoire, c'est ça qui est extraordinaire.
Merci beaucoup.